Comme on dit dans les films, je suis tombé dans les douches ou les toilettes là, avec mon œil. Et c'était pas dans les douches, c'était en poussant le Nissan l'autre jour, ma voiture. C'était un peu rigolo. Je tenais une parapluie dans une main parce que voilà, il pleuvait, et je poussais le Nissan, ma main sur la pare-brise avec l'autre main. Et Sylviane, elle était dans la voiture. Et tout d'un coup, ça a démarré. Et ça fait boum, comme ça. Ça a avancé. Donc, ma main a glissé comme ça. Et j'ai fait un coup de tête. Mais un coup d'œil. Juste derrière le Nissan. Et on voit, c'est cabossé le Nissan qu'on voit. C'est cabossé par ma tête. Hein. Mais bon, voilà. Et voilà, là. Un doigt, un œil. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Un coup d'œil. Et voilà, on va faire un coup d'œil dans la Bible. La semaine dernière, nous avons fait une bonne résolution. Hein, c'est pas si vous vous souvenez, notre bonne résolution de Néhémie. Hein, si on regarde Néhémie chapitre 2. Hein, Néhémie chapitre 2, et c'était le verset 18. Levons-nous et bâtissons. Hein? Levons-nous et bâtissons. Moi, j'ai beaucoup aimé ça la semaine dernière, que voilà, devant tous les défis de ce monde, on va pas juste laisser les choses s'empirer. On dit on va reconstruire des situations. Parce que bon, les portes de Jérusalem étaient brûlés par le feu. Et quelquefois, les portes de nos propres cœurs sont brûlées par le feu. Et on dit, non, on va se lever. On va se lever contre le péché, contre Satan, contre la mort, contre les accusations. On va se lever, on va changer des choses. Même si on change tout petit, mais on va plus être passif. Parce que la pire chose, c'est de ne rien faire. La pire chose, c'est d'accepter des situations comme si c'est normal. Et c'est ce qui s'était passé pour le peuple de Dieu pendant des années, pendant des décennies. On dit, voilà, Jérusalem est brûlée par le feu, voilà, on laisse ça comme ça. Mais un jour, Néhémie s'est levé, il a dit, voilà, je vais changer ça. Et vous savez, il n'y a pas de solution magique ou mystique. Si nous voulons changer des choses, il faut que nous-mêmes, que nous prenions l'initiative. Aussi dur que ça soit quelquefois. C'est toujours le premier pas qui est le plus dur, le plus difficile. Mais même si on a 10 000 échecs, chaque nouvelle journée, on peut encore dire, voilà, je vais essayer de changer. Il ne faut pas perdre courage. Parce que c'est vrai, c'est quelquefois très, très, très difficile. Il y a des ennemis, il y a des accusations. Ce n'est pas toujours facile. Mais je me réjouis que Néhémie, un jour, il a dit, voilà, je vais changer des choses. Et en très peu de temps finalement, quand le peuple a travaillé ensemble, ils ont pu tout restaurer. C'est incroyable cette histoire. Mais bon, j'avais parlé de ça la semaine dernière, mais j'aimerais continuer un peu dans ce livre de Néhémie. Et c'est incroyable, dans le chapitre 3 surtout, de voir qu'il y a une sorte de stratégie prophétique dans la réparation des murailles et surtout dans les portes. Et il y a comme un signe pour nos vies et pour notre temps. Et bon, bien sûr, moi je suis très poétique toujours quand je partage dans les études bibliques, Léa, Rachel, je fais toujours des métaphores, des images et tout ça. Et encore, je vais utiliser des images et des métaphores. Parce que je sais qu'à l'époque, c'est une réalité historique, qu'il y avait la porte des poissons, c'est là où ils livraient les poissons, la porte des brebis, c'est là où il y avait des brebis qui ont tué et tout ça. Et donc, il y avait une réalité historique. Mais quand même, c'est incroyable quand on voit la stratégie de Néhémie, parce que ça nous parle dans une réalité plus grande. Ça parle pour une réalité, pas juste pour reconstruire Jérusalem, mais pour reconstruire l'Église. Et quand nous parlons, reconstruisons l'Église, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on veut dire? Voilà, on va retaper les murs, réparer le toit. Non, ça c'est une chose. Mais c'est réparer nos propres vies. C'est ça, mettre un peu de saveur, un peu de sel, restaurant le sel dans notre vie. Réparant nos propres portes de nos cœurs, réparant nos relations brûlées par le feu quelquefois. Tout ça, il y a un élément prophétique pour nous. Et donc, regardons un peu la stratégie de Néhémie, parce que je trouve que c'est très, très parlant pour nous. Donc voilà, au début du chapitre 3, c'est, il y a les frères sacrificateurs qui travaillent ensemble. Et je vais lire le premier verset. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Anéel. Donc la première porte, c'était quelle porte? La porte des brebis. Et donc quand je lis brebis dans la Bible, je dis mais c'est incroyable. Brebis, quand Jésus parlait des brebis, hein, c'est le chapitre de Jean 10, hein, on va juste regarder ça. Jean chapitre 10, il faut garder un doigt en Néhémie. Mais Jean chapitre 10, « Moi je suis le bon berger, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est comme ça que Jésus a construit l'Église. Il a donné sa vie pour ses brebis. Nous venons de célébrer ce cadeau de vie pour restaurer ses brebis. Il a donné son sang, il a donné sa vie. Mais tout ça, sang, vie, corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mon amour. Je donne mon amour pour vous. Parce que c'est l'amour qui édifie un bâtiment. C'est l'amour qui édifie une vie. Et pas juste l'amour à l'eau de rose. Pas juste l'amour je t'aime moi non plus. Hein. C'est pas ça. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un don de soi pour l'autre. C'est un acte de volonté qui dit même dans les... Je vais même aimer Léa. Pas juste Rachel. Mais je vais aimer jour après jour. Et Jésus, il prouve son amour en ceci. Lorsque nous étions toujours pécheurs, qu'on ne méritait pas l'amour, il a donné sa vie pour nous, le bon berger. Et c'est ça la première chose qui va reconstruire nos portes, c'est de voir l'amour de Jésus, c'est de voir notre bon berger. Et donc commençons par la reconstruction de nos propres portes, de notre vie chrétienne. Ça c'est la première chose que Néhémie a fait. Et je pense que c'est la première chose que Dieu veut faire avant d'aller à l'extérieur d'un côté. Il faut que nous-mêmes, que nous soyons reconstruits. Et après, il y a plusieurs facteurs dans cette reconstruction de la porte des brebis. Verset 4 de Jean 10, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent. Voilà, les brebis le suivent. Suivent Jésus. Suivre Jésus, pas une dénomination, pas une confession de foi, pas un pasteur, pas des anciens, pas des apôtres. On suit Jésus. On a un appel pour Jésus. L'Église appartient à Jésus. À Jésus. On le suit parce qu'elles connaissent sa voix. Quel défi là. Nous restaurons la porte en apprenant à connaître la voix du bon berger. Qui nous dirige, qui nous parle, qui crée cette relation d'intimité. Est-ce que notre porte, des portes de nos oreilles ont été brûlées par les feux d'incrédulité? C'est dans ce monde, il y a une très mauvaise acoustique, hein, à cause du péché. Souvent, bon, Jacques, il est expert d'acoustique. Il y a quelquefois des mauvaises acoustiques, on n'entend pas bien. C'est parce que il y a le péché et la fumée de ce monde. Ça crée une très mauvaise acoustique pour écouter Dieu. Et il faut un climat de foi, de temps, il faut donner du temps à Dieu. Et donc mes brebis connaissent ma voix. Qu'est-ce qu'il dit plus tard? Moi j'aime bien cette phrase. Si vous voulez vraiment une bonne phrase de reconstruction, Jean chapitre 10, verset 10. Parce qu'il introduit un ennemi, le voleur. Le voleur, le voleur. Et il y avait un ennemi pour Néhémie, Sanballat et Tobia. C'était des gens qui se moquaient, qui disaient « Oh, vous n'allez jamais rien faire, vous êtes nuls. Même si un petit renard monte sur votre édifice, tout va tomber. » Et nous, on a ces voix, ce voleur tout le temps qui dit « Oh, mais vous, vous êtes nuls, vous n'avez pas la foi, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. » Continuons, on s'habitue à cette voix. Mais c'est cette voix qui brûle notre porte. Et voilà, le voleur, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est, nous sommes dans une bataille, frères et sœurs. Levons-nous et bâtissons. On va résister l'ennemi. On ne va pas le laisser continuer à dérober toute la richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons le cadeau de Jésus de notre vie avec toutes ses promesses. Est-ce qu'on va laisser l'ennemi voler ses promesses pour nous? Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Et donc, je vais juste dire deux ou trois choses qui me touchent. Moi, je pense qu'une chose que l'ennemi vole tout le temps, c'est notre joie. C'est notre joie. Et c'est intéressant qu'en Néhémie, on dit « La joie du Seigneur est notre force. » Et c'est pour ça qu'il veut voler notre joie. Parce que quand on est découragé, on est faible. On n'a pas la force de prier, on n'a pas la force d'aimer. Donc j'ai dit, pour moi, c'est une grande bataille de maintenir ma joie. Pas juste maintenir une sorte de survie. Je vais être plus ou moins agréable aujourd'hui. Plus ou moins agréable. Et si, déjà si je ne vous engueule pas, c'est déjà un bonus. Mais est-ce qu'on doit vivre dans ce niveau, au dire, voilà, mon héritage aujourd'hui, c'est la joie. Seigneur, devant ta face, devant la présence de Dieu, il y a la joie, d'abondante joie. Dans les psaumes, il dit ça tout le temps. Devant ta face, Seigneur, il y a la joie. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que ce voleur a volé ma joie? Et cette semaine, je méditais Romains 15, 13. C'est quelque chose qui m'a tellement nourri. Quelquefois, je suis vraiment nourri par la parole. J'ai tellement besoin, comme on a chanté, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin quelquefois de manger cette parole, d'avoir des versets qui trottent dans notre tête, mais pas juste dans la tête, mais aussi dans le cœur, qui nous donnent le courage. Et donc Romains 15, 13. Vraiment proclamer sur vous ce matin que le Dieu de l'espérance, alléluia, le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et je dirais, le voleur, il vole ces trois choses, la joie, la paix et l'espérance. Hein, ça, c'est les trois choses c'est comme les voleurs, ils cherchent les ordinateurs, les téléphones portables. Allez, vite fait. Lui, il cherche notre iPhone d'espérance. L'ennemi, il veut voler l'espérance, il veut voler la joie. Et il veut voler notre paix. Voilà, ça c'est aussi le cadeau. Dans ce monde qui est tellement tourmenté, difficile, est-ce que je peux trouver cet espace de shalom dans mon cœur? Paix. Joie, espérance. C'est quand nous avons chanté ce chant pour l'épouse et l'époux. Moi, j'ai cette espérance. Nous avons cette espérance en nous. Nous sommes aimés. Nous sommes embrassés. Et je serai éternellement embrassé par l'amour du Père. Même après la mort, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Ça, c'est la grande chose qui casse notre espérance. Mais moi, j'ose espérer. J'ose espérer. J'ose espérer que la mort n'est pas la fin, que la maladie n'est pas la fin, même si c'est très présent quelquefois, même écrasante. Mais de dire, voilà, Seigneur, une chose que je ne veux jamais perdre, c'est mon espérance. Mais s'il y a une chose que l'ennemi veut voler, c'est votre espérance. Ne perdez pas votre espérance. Et si vous êtes
sur la piste glissante de perdre espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Voilà, dans la foi. Crois, crois, même si la foi vient de ce que vous entendez. Entendez maintenant. Et que dans la foi, vous ayez cette espérance, cette joie, cette paix, pour que vous abondiez en espérance. Waouh! Abondiez en espérance. Une abondance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas juste la psychologie. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la présence même de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie. Seigneur, restaure ma porte. Que je retrouve la présence de Dieu dans ma vie. Donc on voit le voleur qui vient pour voler. Il vient pour tuer, pour tuer. Et il nous tue. Avec quoi? Avec le péché. Encore là, il y a ce verset très bien connu en Romains. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, le SMIC de Satan, le salaire minimum, c'est la mort. Il t'embête, le péché n'est jamais anodin. Le péché colle la mort à notre peau. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Et merci Jésus, tu, par ton sang, par ton sacrifice, tu nous débarrasses de ce péché. C'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Non, là, on n'est pas juste livré à la mort. On n'est pas juste livré au péché. Mais il y a un don de Dieu. Est-ce qu'on va recevoir ce don? Un don, il faut le recevoir. Il faut recevoir un don. Il faut être reconnaissant. Il faut activer ce don. Le don gratuit de Dieu. Et ce don est toujours gratuit. Jusqu'à quand? Parce que Jésus va revenir un jour. Et là, c'est, on passe, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai fait? Il va demander cette question à toute l'humanité. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce don gratuit de la vie éternelle? Bon, je l'ai mis dans un coin, je l'ai méprisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a déjà, c'est pas quelque chose qui va venir, il l'a déjà fait. C'est pour ça que nous avons cet évangile à prêcher. Le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Et il veut détruire. Satan, il veut détruire, casser, détruire. Négatif, toujours sur nous. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Et là, lui, il veut être le destructeur. C'est même le mot Apollyon en Apocalypse. Ça veut dire le destructeur. Pour détruire l'Église, détruire les relations. C'est trop facile de détruire, tuer, voler. C'est n'importe qui peut avoir le ministère de détruire. C'est un maman qui peut élever un enfant. Et elle aime cet enfant pendant 30 ans. Il va en guerre, une seule balle le détruit dans un instant. Et un arbre, ça prend un grand arbre. Ça prend des centaines d'années pour pousser. Et un petit misérable, il peut prendre ça, il coupe ça dans une heure. C'est trop facile de détruire. C'est facile de détruire. N'importe qui peut détruire avec la bouche, avec ses actes. Mais qui peut aimer? Qui peut édifier? Qui peut construire? Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et je veux dire que lui, en mourant sur la croix, il a détruit le destructeur. Il n'y aura pas de destruction dans le ciel. Ça sera fini. Il n'y aura que l'édification, la joie, l'éternité. Mais l'ennemi sur la terre, c'est bien vrai. Il veut voler, tuer et détruire. Mais revenons à Jean 10, 10. Parce que c'est que le début de la phrase. Mais moi, oui, toi Jésus, c'est ça que je veux voir. Je ne veux pas voir le diable, je veux voir toi. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Qu'on abonde de joie, d'espérance. Cette vie abondante. Oh Seigneur, Restaure Jérusalem dans mon cœur. Restaure cette porte qui est brûlée. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis satisfait d'une vie médiocre? Pourquoi est-ce que je ne cherche pas à reconstruire ma vie sur la base de la joie, de la paix, de l'espérance? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à entrer dans cette vie abondante que tu as créée pour moi. Ça, c'est ma réalité. Ça, c'est la promesse. Je comprends que ce n'est pas juste facile. Non, ce n'est jamais facile. Souvent, il faut passer par la croix. Souvent, il faut passer par des épreuves. Et il y a quelquefois des nuits obscures de l'âme. Beaucoup de gens ont parlé de ces nuits obscures de l'âme où on est opprimé, oppressé. Mais même au milieu de la nuit, Seigneur, je vais garder mon espérance. Et je vais me lever chaque jour pour construire ma porte. Parce que tu l'as dit, Seigneur. Je pense que je ne peux pas justifier que Dieu dit « Je vous donne une vie médiocre quand vous devenez chrétien. » C'est quelquefois c'est dur, quelquefois on doit passer par les choses difficiles. Mais lui, il est en opposition. Celui qui donne les vies médiocres, c'est Satan. C'est ce monde qui vous offre une vie médiocre, nulle, qui n'a aucune puissance pour vaincre la mort, qui n'a aucune puissance pour triompher de la banalité de cette vie, de la souffrance de cette vie. Mais Jésus, moi, je suis venu, le bon berger, pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait. C'est Jésus qui parle en abondance. Donc je vous encourage à recevoir quelque chose qui est dans l'abondance du cœur de Dieu. Voilà, il faut que j'avance. En Néhémie, là encore, chapitre 3. Qu'est-ce que c'est le deuxième porte? C'est chapitre 3, verset 3. 3:3. Les fils de Sénin bâtirent la porte des poissons. Ça, c'est intéressant. Deuxième stratégie, parce que première chose, il faut édifier les chrétiens, les brebis. Et je pense ça, il faut le ministère pastoral. Seigneur, restaure le ministère pastoral à ton église. Ça, ce n'est pas le one-man show, mais nous tous, Seigneur, réveille le pasteur en moi pour que je puisse bénir, apporter une vie abondante aux autres. Mais la deuxième porte, c'est la porte des poissons. Et qu'est-ce que Jésus, il a dit à Pierre? En Luc 5, 10, il a dit, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Lui, le pêcheur des poissons, il venait de vivre en Luc 5 une pêche miraculeuse. Il dit, « Oh, on n'a rien pêché, on n'a rien pêché. » Et tout d'un coup, Jésus, il a dit, « Jette le filet de l'autre côté. » Encore cette abondance. Il y avait une stérilité par ses propres efforts. Mais quand Dieu a touché les filets de Pierre, l'abondance, et Dieu utilise l'image. Jésus, il utilise toujours les métaphores. Il dit, vous voyez tous ces poissons? Toi, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Et donc là, Jésus, je pense que là, il reconnaît l'importance d'évangéliser. Et l'Église, si nous voulons reconstruire les murailles, il faut qu'on restaure la porte des poissons, qu'on puisse aller aussi vers ceux qui sont à l'extérieur, que nous devenions ces pêcheurs d'hommes et de femmes. On n'a pas besoin de faire une grande réunion. Souvent, on pêche une poisson à la fois, avec un bon appât. Et trouver le bon appât en France, c'est tout un enjeu. Hein. Je pense que Michel, c'est un expert pour les appâts. Là, quand il était au Château Blanc l'autre jour, c'était facile à pêcher. Peut-être c'est un signe prophétique. On met l'appât. C'est parce que personne pêche là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous allez... Qu'est-ce que c'est votre appât pour attraper telle et telle personne? Hein, il faut être un peu rusé quelquefois. Il ne faut pas toujours juste aller comme ça, voilà. Il faut trouver qu'est-ce que c'est son intérêt. Qu'est-ce que c'est la chose? Comment est-ce que je peux aborder la conversation? Être sensible. Ne pas s'attendre tout de suite la grande conversion le premier jour. Il faut construire, il faut construire, il faut construire. Mais Seigneur, donne-nous d'être des pêcheurs des hommes. Réétablis le ministère d'évangéliste à ton église. Qu'on soit tous, Paul dit à Timothée, fais l'œuvre de l'évangéliste. Et nous tous, on peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Pas par crainte et tremblement, je dois partager l'évangile. Non, il ne faut pas faire comme ça. Naturellement, naturellement, en parlant de ce que Dieu a fait pour vous, en parlant de vos expériences, même de parlant de vos échecs, mais comment Dieu vous a gardé même dans l'échec et tout ça. Mais osant parler, cette porte est vraiment brûlée par le feu de la crainte. On n'ose rien dire. Oh, on est chrétien, ils vont dire que je suis dans une secte. Voilà, voilà. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut. Une puissance pour le salut et en nous, pour quiconque croit. Et donc, restaurant la porte des poissons. Le Seigneur suscite le ministère d'évangéliste au milieu de nous. Et donc, pour terminer, voilà le verset 6 en Néhémie chapitre 3. Yoyada, fils de Passé, et Meshulam, fils de Besodia, répare la vieille porte. C'est la troisième porte. La vieille porte. Et donc, quand j'ai pensé à la vieille porte, bon, c'était une vieille porte, littéralement. Mais là, avec mon imagination, j'ai pensé en Éphésiens, là. Et il parle de l'Église. Et il dit que cette Église, pardon, Éphésiens 2, verset 20, Éphésiens 2, 20, chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés, ça veut dire construit, là encore, cette image de construction, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et quand j'ai pensé, la vieille porte, c'est un peu le fondement, c'est quelque chose qui est depuis le début, qui va durer, qui porte, qui a de l'expérience, qui est solide, qui est inébranlable, une vieille porte là, il faut restaurer cette vieille porte. Et quand j'ai pensé à ça, et donc comme je dis, c'est juste mon idée, hein, il ne faut pas faire toute une doctrine là-dessus, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'Église est fondée sur les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Toutes ces paroles héritées des Juifs, le Torah, les psaumes, c'est la vieille porte, ça. C'est la vieille porte. C'est une porte qui a donné la vie à l'Europe, cette porte. L'Europe est fondée sur cette porte. Malheureusement, l'Europe est en train de négliger tout ça. Cette vieille porte est brûlée par le feu. On ne veut même pas reconnaître en Europe que l'Europe était fondée sur les valeurs chrétiennes. C'est incroyable. Il faut être fou pour dire ça. Il faut oublier l'histoire. Il faut oublier la vieille porte. Mais cette vieille porte est brûlée par le feu. C'est pour ça qu'il faut restaurer cette vieille porte. Les valeurs bibliques, les valeurs de l'Ancien Testament, les valeurs apostoliques, parce que là, les écrits, là, quand il dit fondé sur les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Fondé sur les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est fondé sur la parole apostolique du Nouveau Testament. Bien sûr, ça peut être aussi des individus. Mais bien au-delà des individus, l'Église est édifiée sur la parole de Dieu. Et donc même ma propre vie est édifiée sur la parole de Dieu. Si je n'ai pas cette parole en moi, je n'ai pas de fondement, ma vieille porte est brûlée. Il faut donner le temps pour puiser dans le fondement. La parole de Dieu crée un fondement dans notre vie. Et comme Jésus, il a utilisé la parabole, vous savez, la maison qui est construite sur le sable et une autre sur le rocher. Et quand il y avait la tempête, c'était la maison qui était construite sur le roc qui a demeuré. Et donc là, construisons nos vies sur le roc, sur Jésus-Christ bien sûr, mais Jésus-Christ aujourd'hui par le Saint-Esprit, il vit dans cette parole. Et qu'on soit nourri chacun, ramasse comme il veut sa manne. Si vous voulez ramasser beaucoup, vous avez faim, vous ramassez beaucoup. Si vous avez un petit faim, vous ramassez peu. Mais ramassons un peu de manne chaque jour. Un peu de manne chaque jour et restaurant cette vieille porte. Et je peux dire, restaurant, Seigneur, le ministère d'enseignant dans l'Église. Alors voilà, On voit, bon, il y a plusieurs portes. Hein. Et chaque porte a un message. Peut-être que j'aurai le temps d'encore aller parler de ces portes. Mais pour aujourd'hui, que Dieu nous restaure, qu'il restaure cette vie abondante en nous, cette espérance, que la porte des brebis soit restaurée, qu'il nous donne d'être des pêcheurs d'hommes, qu'il restaure la porte de l'évangélisation et qu'il restaure la vieille porte, l'amour pour sa parole. Que sa parole habite avec nous, que sa parole habite en nous avec toute sa richesse. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, que tu restaures toutes ces choses en nous, Seigneur. Oh, Seigneur, merci parce que tu fais une œuvre de restauration dans chacun de nos vies. Je le vois, Seigneur, aussi petite que ça soit. Merci, Seigneur, que nous avons pris cette résolution de changer des choses. On ne veut pas continuer comme d'habitude. Nous ne voulons pas vivre dans la médiocrité du péché, de la mort, des accusations de l'ennemi. Mais Seigneur, nous voulons viser cette vie abondante. Restaure la joie, restaure de l'espérance, restaure la paix, restaure la joie, Seigneur, dans nos cœurs. Fais de nous des pêcheurs d'hommes, Seigneur. Et Seigneur, que ta parole habite dans nos cœurs avec toute sa richesse, pour la gloire de Dieu. Amen.